au théâtre ce soir, le premier débat de la primaire de la gauche. Je dis au théâtre parce qu'on parle d'un débat mis en scène et en spectacle, mais surtout parce qu'entre le débat politique et la pièce de théâtre, il n'y a qu'un pas, un tout petit pas en fait. Après tout, à l'origine du théâtre, dans la Grèce antique, il y a l'agone, la lutte, le combat. Et vous remarquerez que ce qui fait avancer l'action au théâtre, ce sont des conflits, de Racine à Genet, en passant par Beaumarchais. Alors à l'idée de cette confrontation ce soir entre les candidats de la primaire de la gauche, je sais pas pourquoi moi, je pense au dieu du carnage, cette pièce de Yasmina Reza adaptée au cinéma par Polanski, qui repose sur le conflit, des bagarres sur scène et en coulisses, des couples rivaux, d'improbables duos, des vrais coupables, des faux innocents, bref c'est un carnage. D'autant que les conflits s'accumulent et se complexifient à mesure que la pièce se poursuit. C'est une pièce de débat, le dieu du carnage, entre des personnages qui pourraient être proches, mais dont on se rend compte qu'ils se détestent. Une pièce de mots, M-O-T-S, et de mots, M-A-U-X, où les enjeux de pouvoir, de domination et de trahison se jouent dans le langage. Une pièce qui confronte plein d'idées, mais bizarrement, on est de plus en plus convaincu que rien ne va se régler. Une pièce primale, une pièce primaire, au théâtre, ce soir.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang, que donne mon invité d'aujourd'hui dans le débat, le duel, le conflit. S'il parle volontiers de théâtre, c'est un roman qu'il publie, son 7e aux éditions de minuit, article 353 du code pénal, vient de sortir. Donc il y raconte le destin tragique d'un homme brisé, le crépuscule d'une idée de la gauche aussi, entre abus, lâcheté, désillusion. Bonjour Tanguy Viel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous serez au théâtre ce soir?
Dans mon canapé, je serai au théâtre, à ma manière, oui, sans doute, mais je pense que oui, je vais regarder ce premier débat, là, pour voir un peu. De toute façon, là, je sais pas, je suis comme tout le monde, comme la France entière, on hésite tous les jours, on change de couleur, on se demande pour lequel on va voter.
Mais vous attendez quelque chose de ces primaires de la gauche?
Oui, quand même, oui, enfin, les lignes politiques sont assez claires, sont bien définies, mais. Ouais, qu'est-ce que j'attends? J'hésite entre des choix de conviction et des choix stratégiques, vous voyez? Ouais. Comme tout le monde, en fait.
Et pourquoi je vous pose la question? Parce que quand on lit article 353 du Code pénal, votre nouveau roman, on se dit aussi qu'elle appartient au passé, la gauche, à un autre temps, à une autre génération aussi, non?
Ben, dans le roman, bon, c'est vrai qu'il y a cet arrière-fond, le roman se passe dans les années 90, alors il dit quelque chose de peut-être un désenchantement qu'aurait été produit sur des générations comme les nôtres, c'est-à-dire des gens qui avions 20, 25 ans dans ces années 90, donc qui héritions de 20, 30 ans de rêves ou d'utopie et justement peut-être de déception. Mais après, mon travail de romancier, c'est pas forcément de faire une analyse politique, c'est peut-être plus de... si je peux me permettre de le dire comme ça, de transformer la politique en sentiment.
Oui. En ces années-là, on avait toutes les chances d'être dans la majorité quand on était socialiste. Au niveau même du pays entier, on était socialiste. C'est ce que vous faites dire, hein, à votre personnage. Qu'est-ce qui a changé, surtout pourquoi ça a changé? Parce que vous apportez des réponses quand même.
Ben, ce qui me semble, c'est que bon, le personnage, en l'occurrence, c'est une sorte d'ouvrier qui est pas si malheureux à l'arsenal de Brest et qui vit, comme beaucoup de gens à cette époque-là, les moments de désindustrialisation, la façon dont les villes se désaffectent un petit peu des anciennes manières de travailler. Et à partir de là, voilà, il renonce à un certain nombre de convictions, de certitudes sur la façon de vivre ensemble et d'organiser son temps, son argent, sa vie, le sens de sa vie. Et bon, en l'occurrence, il fait les mauvais choix avec son argent, c'est-à-dire que, sans doute, il renonce à une certaine idée de la gauche, oui, sans doute.
Je veux pas vraiment réduire votre livre à une dimension politique, vraiment parce que ce serait pas pertinent. En revanche, une œuvre peut pas être totalement déconnectée de son contexte de production et de son contexte d'écriture aussi. Écrire un livre comme ça qui traite, une fiction, hein, qui traite de la gauche, qu'est-ce que ça implique chez vous? De quel besoin est-ce que ça témoigne?
Ben, c'est-à-dire que oui, j'assume volontiers que le livre s'inscrive dans une époque, qu'il soit presque, j'allais dire, un roman historique, parce que c'est encore en franc, c'est dans les années 90. Mais en même temps, c'est vrai que je dois dire que ce que je dis du socialisme, au fond, c'est pas tellement non plus ce qui m'intéresse, parce que moi, c'est comment dirais-je, le fait d'être, c'est une génération avec un tempérament, une humeur souterraine. Il me semble que les décennies ou les générations ont des couleurs, des humeurs, qui sont pas forcément si marquées par un encartement politique. C'est, au fond, une façon dont un monde, à un moment, court, prend telle ou telle direction. Alors, il y a une direction des années 80, dont on sait qu'elle est un petit peu celle du dévoiement, celle aussi de renoncement à des utopies qui, peut-être, elle, était à l'inverse un peu folle des années 60-70. Et puis, Voilà, dans le livre, c'est quelqu'un qui débarque dans les années 90 et qui se retrouve sans plus grande conviction et dont le fils aussi se retrouve avec cet héritage, c'est-à-dire un héritage très fragile où en fait on croit plus dans grand-chose, une certaine mélancolie en fond.
Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'acte d'écrire, en fait, la posture d'écrivain qui est la vôtre. Et c'est drôle, en vous lisant hier, moi, j'ai pensé à la parole d'un de nos invités de cette semaine, avant-hier, pour être précis.
Dès qu'on se met à produire des idées, ou plus largement produire de la culture, parce que je pense qu'aussi mon livre essaye de penser que les problèmes qui se posent à l'intellectuel, à l'artiste, au dramaturge, à l'écrivain sont les mêmes, alors on s'engage, alors on rentre dans une activité qui produit des discours, qui produit des représentations, qui contribue à façonner le monde. Donc, écrire, c'est s'engager. Écrire, c'est être pris dans une activité d'engagement. Donc, il n'y a pas d'écriture qui puisse revendiquer une forme de désengagement. Et c'est pour ça que moi, j'essaye toujours, dans ce livre, d'essayer d'inverser les valeurs en pensant que l'acte premier de tout acte d'écriture, la décision d'écrire, est une décision d'engagement, une décision d'affronter le monde, de se confronter par rapport au monde.
Geoffroy de la Gannerie, à ce même micro, tant qu'il vient à votre place, avant-hier, quand il dit écrire, c'est forcément s'engager. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ah bah moi au départ je pense la chose tout à fait inverse, j'écris parce que je voulais quitter quelque chose, je voulais me réfugier, j'écris parce que j'ai peur d'être dans le monde en vrai, j'écris parce que je préfère être dans ma chambre que dans la rue, non, pour moi s'il y a des formes d'engagement ou je sais quoi, elles sont peut-être souterraines, elles sont peut-être liées aux radiations que peuvent produire les livres dans le monde une fois que les livres existent, mais au moment d'écrire, moi je dois dire que j'ai des soucis beaucoup plus privés et beaucoup plus modestes en fait.
Pour autant, est-ce que c'est une confrontation au monde, pour reprendre ses propres termes?
Bah, ça le devient, il faut reconnaître. Bon, bah, un livre, on en est responsable, il existe, il a ses lecteurs, et du jour où il est là, sans équivoque, il résonne avec le monde, il dit quelque chose du monde, évidemment.
Quand vous parlez de refuge, qu'est-ce que ça vous permet de protéger, en fait, l'acte littéraire, le fait d'écrire?
Ça me permet peut-être tout simplement de recomposer des espaces un peu homogènes et continus que le sentiment que être dans le monde, c'est quand même répondre sans cesse à 1000 injonctions diverses et variées qui sont, à mon sens, trop nombreux, démultipliantes et qui m'empêchent, moi, d'être la petite unité que j'ai besoin d'être pour tenir debout.
Si je vous parle de littérature comme d'une manière d'affronter la vie, c'est aussi parce que votre narrateur, lui, il n'a jamais su vraiment comment l'affronter, la vie. Il est divorcé, sans emploi depuis son licenciement de l'Arsenal de Brest, donc il sait plus trop comment parler à son fils, il se fait plumer par un agent immobilier. Il a tout de l'homme à la fois ordinaire, l'homme sans qualité, et pourtant il va commettre un meurtre. Meurtre que vous racontez, je le précise aux auditeurs, dès le premier chapitre du roman. Ce geste, comment vous l'interprétez-vous ?
Le geste du meurtre, peut-être comme une pile électrique qu'on aurait trop chargée et qui, au bout d'un moment, court à l'irréparable et qui est l'accumulation. C'est comme si finalement c'était un ressort qu'on avait tendu pendant 120 pages et qui aussi pendant 15 ans ou 20 ans de sa vie et qui à un moment explose, de sorte que c'est pas forcément un geste révolutionnaire. Vous voyez, puisque vous parliez de politique, c'est pas forcément un geste politique, c'est aussi un geste compulsif. C'est aussi un moment de débordement où au fond, je voudrais que ce livre soit une histoire des nerfs, en fait. Une histoire de comment on est capable d'encaisser, ou de renoncer, de perdre une image de soi. Et puis à un moment, quand on l'a perdue, le seul moyen de la recouvrer en partie, c'est peut-être de faire n'importe quoi.
Parce que vous faites du meurtre, ça pose des questions très intéressantes d'un point de vue moral. Ce meurtre, vous en faites non pas un acte de vengeance, mais une façon pour lui de retrouver effectivement sa dignité, de se faire justice. Et il ne sera d'ailleurs plus question que de cela en réalité, de justice. Vous y croyez encore, vous, à la justice ?
Bah, bien sûr. Après, je suis pas sûr que je croie forcément à la vendetta. Ou du moins à la justice privée, et à la vengeance. Et il me semble qu'il y a là-dedans quelque chose d'un peu, encore une fois, compulsif, et donc une folie que quelques siècles de raison et de lumière doivent quand même nous faire un peu réfléchir avant d'en arriver là. Mais, je vois pas pourquoi je croirais pas à la justice. D'ailleurs, même le juge que je mets en scène dans le livre a tendance à quand même se laisser bouger.
C'est quoi l'article 353 du Code pénal qui donne son titre à votre roman, Tanguy Viel ?
Ben, c'est un article fondateur du droit français, c'est l'article sur la notion d'intime conviction. C'est-à-dire, au fond, le fait que, quelles que soient les preuves et les raisons qu'on donne pour un accusé ou quoi, à un moment, de toute façon, le juge, en son âme et conscience, devra trancher en son intime conviction. Et il y a cette phrase très très belle dans l'article où il est dit « La loi ne fait au juge que cette seule demande, avez-vous une intime conviction ?» Alors c'est un peu comme si toute la subjectivité de l'humanité ou de la possibilité de juger s'engouffrait dans cet endroit.
Celle qui, dans cette émission, est tout entière dans l'intime conviction que vous la connaissez peut-être, c'est la culture, ton Guiziel, et son actualité bien trop pardonnable pour qu'elle soit acquittée. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 12 janvier?
Assemblé, jeté, soubresaut, diagonale de déboulé, piqué. Ce langage codé est propre au monde de la danse.
Nouveau fait divers insolite, la 19e édition du festival de danse contemporaine Fait divers investit aujourd'hui la capitale et ses environs, de la conciergerie au carreau du temple en passant par la cartoucherie de Vincennes ou le théâtre de Gennevilliers. C'est pas moins de 9 lieux franciliens qui vont vibrer pendant 4 semaines sous les pas des jeunes étoiles montantes de la scène. Programme les micro-performances de Nadia Vadori-Gauthier, réaction poétique et chorégraphique aux attentats, ou la pièce burlesque et chaloupée de Thomas Lebrun qui présente ses rois de la piste Let's Twist.
But there was one performance this year that stunned me. It sank its hooks in my heart. Not because it was good. There was nothing good about it.
Ah, mais il du rififi chez les artis. Comme le révèle le New York Times, plus de 130 artistes, critiques et institutions du monde de l'art appellent à cesser toute activité culturelle le 20 janvier prochain, jour de l'investiture du 45e président des États-Unis, Donald Trump, sous le cycle G20 Art Strike. La photographe Cindy Sherman, le vidéaste John Jonas, le sculpteur Richard Serra et des dizaines d'autres invitent à se mettre en grève pour protester contre la normalisation du Trumpisme et imaginer de nouvelles formes de résistance par la pensée, la vue, la sensibilité, l'action. Yes, we can.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Pas de mer, pas de montagne, pas de ville. Heureusement qu'il vous reste les Césars. La 42e cérémonie des Césars, qui se tiendra le 24 février prochain, sera dédiée à l'as des as du 7e art, Jean-Paul Belmondo, au programme Émotion et une pluie d'hommages sur la salle Pleyel pour célébrer 6 décennies d'une carrière de répliques cultes, de rôles mythiques. Ça nous promet une bébelle soirée. Vous l'avez?
C'est une maison bleue, adossée à la colline, au milieu de la plaine.
Elle n'est ni bleue ni adossée à la colline. Alors Maxime, tu remballes ta guitare, un peu de sérieux. On a appris hier que le lieu d'exposition parisien, la Maison Rouge, allait fermer ses portes fin 2018. Son fondateur, le collectionneur Antoine de Galbert, a déclaré « Il me semble préférable que cette aventure finisse alors qu'elle est au plus haut de la vague, plutôt que de courir le risque de moins bien finir ». Depuis son ouverture au public en 2004, la fondation a accueilli entre 3 et 6 expos par an, notamment l'accrochage de la collection d'Arthur Walter en 2015 ou celle d'Hervé Di Rosa, visible en ce moment. Alors on en profite. Tanguy Viel, invité de Boomerang ce matin. Tanguy Viel et son nouveau roman, article 353 du Code pénal, qui vient de paraître. Il se trouve que son personnage principal n'est pas sans lien avec celui d'un autre roman que vous avez écrit il y a 8 ans, Paris-Brest, ne serait-ce que par son territoire, hein. La Bretagne, toujours présente à l'arrière-plan. Quel genre de paysage est-ce que c'est pour vous, la Bretagne?
Oh, c'est une histoire d'atmosphère et d'impression profonde, de couleurs, un mélange de gris et de vert. Alors, je suis pas sûr de l'utiliser à chaque fois de la même manière ou de la dépeindre à chaque fois de la même manière dans les livres, parce que je crois que dans les précédents, on voyait plus la mer. On voyait plus l'océan, non pas qu'il serait pas présent là, mais comme beaucoup de choses se passent dans la rade, les dernières images que j'ai eues, qui ont fondé ce livre-là, sont des images qui étaient plus vaseuses, au sens ces endroits d'embourbement au fond où les arbres viendraient se perdre dans l'eau, presque les racines, voyez, presque comme une mangrove, enfin quelque chose d'un peu plus, peut-être encore plus gris ou un peu plus fondu, où tous les éléments, même la ville viendrait se fondre dans ce décor-là, quelque chose qui est un peu flouté.
Mais qu'est-ce qui fait de la Bretagne un lieu littéraire, un lieu romanesque? Je vous pose la question parce que les lieux sont centraux, en fait, dans votre approche du roman.
Ah oui, j'ai même l'impression que les personnages sont nés des lieux. C'est presque comme si ils étaient nés des arbres. Enfin, après, ce sont devenus des consciences et tout ça. Mais dans ce livre-là, j'espère avoir travaillé pour qu'on sente qu'un être humain est aussi quelque chose qui vit avec une espèce de puissance presque tellurique, en fait.
Qui est essentiellement dans la Bretagne, justement.
Alors, non, c'est mon territoire personnel, peut-être pour des questions d'enfance et tout ça. Mais aussi, c'est vrai que je trouve que, bon, certes, j'y ai grandi, mais j'ai la chance d'avoir grandi dans un endroit où en effet, il y a des éléments qui me semblent profondément romanesques, ancrés dans presque des choses qui seraient la naissance même de la fiction, ou de certaines fictions. Je pense beaucoup à l'Angleterre du 19e siècle. Pour moi, il y a, en Bretagne, et surtout dans le Finistère, il y a quelque chose d'Emily Brontë. Il y a quelque chose de certains films d'Hitchcock. Alors, je crois que j'arrive à mélanger, j'essaye de mélanger à la fois des impressions de lecture et des souvenirs d'enfance.
Ce sont des décors assez, assez extraordinaires, je dois dire, comme des scènes de théâtre, des espaces réduits, clos, oui. Qui vont contenir l'action. C'est ça l'enjeu aussi.
Ça, c'est ma pente d'esprit. C'est en effet de tout concentrer sur des espaces très très clos, très petits. Je crois pas être un écrivain épique. Je dilue pas la matière comme ça sur des centaines de pages. Donc, je théâtralise en effet. Je concentre. Je fabrique des figures. J'essaie que toutes les forces, y compris dans le nombre de personnages. Oui, c'est un roman. Il y a 4 personnages. Parce que peut-être à certains moments du projet, j'en ai eu 7 ou 8, mais je me suis rendu compte que ça tenait dans 4.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que c'est pour éviter que ça déborde. En fait, c'est pour contenir l'écriture.
Oui. De toute façon, j'ai besoin de ça, et puis j'ai l'impression que les choses existent que quand elles ont une certaine densité, un peu comme on parle de densité au niveau des planètes, ou je sais quoi, comme on parle d'un trou noir par exemple, qui a une densité énorme. Bah, au fond, un personnage ou un lieu, pour moi, il prend sa force à proportion de cette électricité ou énergie profonde, sombre ou lumineuse, comme énergie. Mais en tout cas, j'ai besoin de fermer tout.
Ça veut dire qu'en fait, derrière un roman de Tanguy Viel, il peut possiblement y avoir un roman de 800 pages.
Oh, pas à ce point-là, mais on va dire qu'il y a 800 pages de pensée intérieure.
À quelles errances est-ce que vous avez été confronté en écrivant article 353 du Code pénal ?
Alors, je dois dire que je crois que si, en ce moment, j'aime bien ce livre que j'ai écrit pour la raison toute bête que j'ai pas eu trop de mal à l'écrire. Et au fond, pour moi, c'est souvent comme ça. L'image que j'ai de mon propre livre est liée à la facilité plus ou moins grande avec laquelle j'ai pu l'écrire. Celui-là, je dois dire que j'ai eu 2-3 idées centrales ou fondatrices qui m'ont permis très vite d'élaborer un scénario assez clair. Et derrière, l'écriture n'a pas été un cauchemar comme ça peut l'être quelquefois.
Il faut que ce soit évident, un roman.
À la fin, il faut que ce soit évident. Mais ça, la tâche pour que ça le devienne, quelquefois, est complexe. Quelquefois, ça vient plus simplement. Mais il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit évident, il faut qu'on ait... Oh, puis je crois que j'aime bien l'idée qu'un livre puisse se lire d'une traite. Non pas que je demande qu'on le lise d'une traite, mais que ce soit comme une espèce de cascade et que, au fond, peut-être comme on regarde un film.
Un film, c'est vrai qu'il y a toujours question de cinéma chez vous. On va parler d'écriture, de décor, d'art. Juste après un artiste, Yodé, lui aussi intarissable sur la Bretagne. C'est mieux sec, les écailles, en playlist sur France Inter ce matin avec Tanguy Viel. Vous écoutez Boomerang.
J'entends les criquets, les cigales. On n'est plus très loin du littoral. Le soleil est à la verticale sur la voie ferrée horizontale. J'entends soudain le signal. Je vois la barrière transversale. J'appuie comme un fou sur la pédale. L'être arrive comme une rafale. Je perds mon écorce, j'enlève mes écailles. Comme n'importe quel animal allongé sur une route départementale, je me répands, je deviens pâle. Bon Dieu, j'ai perdu une. Je sens que je me tire, je sens que
sur France Inter. Augustin Trapenard.
Non mais ça va, là, déjà la semaine dernière, Jeanne Chéral essayait de voler la vedette à Rebecca Manzoni, aujourd'hui c'est le pompon, voilà mon invité résolu à piquer son poste à Patrick Cohen, Marc Fauvel et Guillaume Meurice, regardez-le, c'est un mélange des trois, le cheveu un peu hirsute, grisonnant et gauchiste à la Meurice, le sourire en coin et l'œil impitoyable d'un Cohen, la simplicité oursonne d'un Fauvel, franchement j'ai l'impression que c'est un complot et que son théâtre est mon studio, pull, la fermeture éclair, jean, tennis, il est pourtant très simple, tant qu'il y est. Invité de Boomerang ce matin pour son nouveau roman, article 353 du Code pénal, la longue confession d'un homme qui vient de faire tomber à la mer celui qui a gâché sa vie, celle des habitants de sa ville, celle de son fils aussi, ce fils Kermeur qui était un personnage de Paris-Brest, l'un de vos précédents romans. Mais si Paris-Brest regorgeait d'artifices narratifs, Tanguy Vielle, d'article 353, pas de mise en abîme, pas de roman dans le roman, ce livre, j'ai l'impression que c'est un retour à une fiction plus simple, une appréhension de la fiction plus classique, je me trompe?
Ah non, du tout, c'était en partie le projet, et pour moi c'est une grande victoire sur moi-même, même si je pense que je parlerai pas de progrès, parce que je pense que je peux revenir aussi
non,
bien
à ce que j'ai fait. Ne parlons pas de progrès, ça part malchance en ce moment.
Non, mais c'est plutôt le sentiment que, pour une fois, j'ai eu l'impression de vouloir faire un roman qui aille tout droit, et qui soit presque transparent, en tout cas, qui est entre moi et cette histoire, dans la manière de l'écrire, et peut-être dans la manière dont le lecteur peut le lire, une sorte d'évidence transparente, qui en effet... peut-être est nouvelle chez moi, en tout cas je l'ai fait, les choses sont plus à vif, plus, je crois.
Ça voudrait dire qu'il y aurait eu à un moment donné un doute chez vous dans l'exercice de la fiction?
Oui, je pense que je suis né dans ce grand doute, parce que j'ai commencé là aussi à la fin des années 90, et que à l'époque le roman était plus suspect qu'aujourd'hui, et au fond ce que peut-être on a fait, je crois pas être le seul, mais depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on recharge les batteries de la fiction, on hésite moins à y raconter des histoires. En fait, on se rend compte que avec tous les détours qu'on peut essayer de faire, par les précautions, par les doutes qu'on a sur la fiction, il y a un moment où on en a quand même envie. Alors c'est ce désir qui prend le pas, et là, pour moi, je crois que j'ai retrouvé une certaine... Oh, j'irais pas jusqu'à naïveté quand même, mais enfin, un plaisir de la fiction. Ouais.
Et il y a plein d'histoires dans ce livre. Ce livre, on peut le lire de plusieurs façons, comme celle d'une lutte des classes, par exemple, d'un conflit générationnel, peut-être également comme une histoire de filiation, de transmission, d'héritage, tout simplement. Qu'est-ce qui vous intéresse, d'ailleurs, c'est une question que je me pose, à ce point, dans les figures romanesques du père et du fils qui traversent votre travail?
La plupart du temps, c'est vrai que notamment les narrateurs sont des personnages qui ont peu de pouvoir sur leur propre vie, qui essayent d'agréger un peu les éléments qui sont autour d'eux pour comprendre un peu qui ils sont. Mais en général, il y a devant eux ou face à eux une figure qui, elle, est bien solide. Alors, une figure de pouvoir, une figure de manipulation. Et donc, il les rend d'autant plus passifs, d'autant plus soumis que, évidemment, eux ont les moyens ou les codes, et tandis que le narrateur, en général, ne comprend rien. Alors le travail du livre, c'est qu'à un moment, le narrateur, le personnage central, arrive à recomprendre et donc à recomposer le récit de sa vie pour, à son tour, peut-être prendre le pouvoir sur celui qui, en face, tire les ficelles. Dans ce livre-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a l'escroc qui, lui, tire les ficelles. Il y a ce personnage qui raconte, mais qui est quand même plus un enfant, mais un homme d'une cinquantaine d'années, et donc très fatigué, et qui se rend compte de tous les échecs de sa vie. Et il y a son fils... qui, lui, subit de manière encore plus passive, ou qui regarde presque son père sombrer au fil des années pendant lesquelles lui grandit et a du mal à se constituer. Voilà. C'est une sorte de triangle des forces qui sont, pour ainsi dire, mal distribuées.
J'ai envie qu'on entende quand même un extrait de ce texte, article 353 du Code pénal. Moi aussi, je regardais vers le large, le tombé des roches qu'on distinguait mal avec la pluie qui embuait le ciel. Moi non plus, je n'ai pas tourné la tête d'un centième vers lui, quand dans le silence on partageait bien assez nos pensées, quand le langage lui-même est un luxe inutile, puisqu'il n'y avait rien de plus à dire, rien de plus à comprendre. Du moins, s'y comprendre, c'est faire une phrase qui justement s'articule et s'éclaire avec des donc et des alors. Mais non, comprendre là-dedans, j'ai dit au juge, c'est plutôt ressentir profondément, là, oui, là. Et alors j'ai mis le doigt, non pas sur le cœur, non pas sur le front, mais sur l'estomac. Là, en dessous du plexus, oui, là, comprendre, ça fait une douleur que les hommes, je vous jure, connaissent depuis l'Antiquité sans trop savoir jamais si ça brûle, pique ou détruit. C'est une démonstration des limites du langage, en fait, Tanguy Vielle.
Ah ben, à tout moment, dans ce livre-là, j'étais confronté à ça. C'est que je sentais que je cherchais un endroit pour dire une espèce d'émotion brûlante qui peut être celle de l'échec, mais aussi celle de la colère et tout ça. Et de toute façon, enfin, remarquez, écrire, c'est quand même Hein. Enfin, je veux dire, si ça relève pas de cette tentative d'aller essayer de déposer des phrases là où c'est presque impossible de le faire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Et la musique, parce qu'il faut conclure cette émission avec une musique que vous avez choisie, justement.
Oui, j'ai choisi une chanson de mon groupe préféré, ou je devrais dire mon groupe préféré par-delà les années qui passent, c'est-à-dire Nirvana. Parce que je crois que j'ai l'impression que Nirvana est le groupe qui, et ça se dément pas avec les 20 ans qui sont passés depuis la mort de Kurt Cobain, c'est le groupe qui a saisi l'humeur d'une décennie, à mon sens, et il se trouve que c'est la décennie dans laquelle se déroule mon roman. Alors j'ai pensé que proposer une chanson avec la voix éraillée de Kurt Cobain pouvait être une manière de dire mieux que peut-être que de dire à quelle partie il faut s'encarter, ce que c'est que le grain d'une vie et d'un désir, d'une utopie, ou au contraire d'une mélancolie, parce que dans le cas de Kurt Cobain, ce qui est très beau, et c'est pour ça que pour moi il dit quelque chose des années 90, c'est, bon, il s'est suicidé, c'était pas le seul choix possible, mais on a tous frôlé cet endroit de grande fatigue. Et on est quand même là, en 2017, et Kurt Cobain l'a fait comme ça, mais je trouve qu'il a dit, voilà, sa voix dit quelque chose de nous.
Alors vous lancez votre bras, là?
Alors je lance mon bras. Hop. Pour lancer le disque.
My Girl, Nirvana, 1993, sur France Inter.
The sun don't ever shine, I would shiver.